LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
Il était une fois une princesse qui devint amoureuse. Mais ce fut très facile, je t'assure. On ne voyait que trop que le prince était charmant, que je ne pouvais aimer que lui.
19 décembre 2022, 6 jours avant Noël. Je me lève, je me pomponne, je me maquille, je cire mes chaussures. Bref, je me fais toute belle. Parce que ce matin, à 10h, j'ai rendez-vous à la mairie pour me paxer. Bon, j'avoue, c'est pas mon premier pax. Sur mon acte de naissance, en marge, on trouve une pelletée de pax et de mariage. Mais bon, quand même. Un pax, dans mon imaginaire de princesse, ça reste un engagement. 10h moins le quart, ça y est, je suis prête. Le seul élément manquant, c'est... c'est lui, en fait. L'homme avec qui je suis censée me paxer. 10h moins 10, toujours personne. J'envoie un SMS. T'es où ?
Je suis encore au lit.
C'est pas vrai que t'as oublié ?
Mais tout ne tourne pas autour de toi.
Je n'ai pas su quoi répondre. De dépit, je lui ai dit « T'es vraiment un crapaud. » Parce qu'au fond, ce que j'attendais, c'était qu'il se transforme en prince.
Mon ami reprendra pas à être aussi sympa quand j'ai fait de mon mieux tout charmant.
Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ? Une série documentaire d'Ovidie avec la participation de Tancrède Ramonet, réalisée par Julie Béressy. Épisode 1, Un jour, mon prince viendra.
Et bienvenue à La Pièce Théâtre. Aujourd'hui, les enfants, vous allez voir Cendrillon 2022.
Bon spectacle.
Tancrède, c'est un peu mon référent masculinité. Genre mâle blanc en cours de déconstruction. Quand j'ai des questions sur les hommes, c'est à lui que je les pose. Alors figure-toi que l'autre jour, je suis allée voir un spectacle de Cendrillon pour les tout-petits. Et en fait, ça raconte plein de trucs qu'on dénonce aujourd'hui. Ça raconte, par exemple, les relations toxiques. Tu sais, les deux demi-sœurs de Cendrillon, elles passent leur temps à la dénigrer et à saper son égo. Donc déjà, elles commencent par se faire broyer l'égo, mais complètement. Et il y a aussi autre chose, c'est... comment se fabrique l'imaginaire autour du prince charmant ? Parce que Cendrillon, quand tu regardes bien, c'est une nana qui est déclassée, dans le sens où, elle est quand même de 100 hommes, mais elle fait quand même le ménage, donc elle est tout en bas de l'échelle. Et en même temps, elle rêve de quoi ? Elle rêve d'un mec qui a le pouvoir, puisque c'est le prince, qui est pété de thunes, puisque c'est le prince, qui est plus expérimenté qu'elle, puisque c'est le prince aussi, et qui va lui faire découvrir un monde nouveau. Et ce truc-là de Cendrillon, mais en fait, c'est toujours très présent. Il y a quand même cette idée qu'on va quand même pas s'enticher d'un prolo.
Tout est dans les contes pour enfants. Hein. Un peu de la même manière, tu sais, dans La Belle au bois dormant.
Tancrède Ramonet.
On s'est beaucoup moqué des gens qui disaient que le baiser du prince charmant, alors qu'elle était endormie, pouvait être apparenté à un viol. Et donc, on disait quand même, faut pas exagérer, c'est quand même le prince charmant, il est classe et tout, donc avec toute une culture du viol qui se diffuserait. Or, dans l'origine du conte de La Belle au bois dormant, le prince couche avec la Belle au bois dormant pendant qu'elle dort. Et d'ailleurs, elle se réveille en accouchant. Et ces contes à la fois reproduisent une culture comme ça, qui est une culture machiste, sexiste, et une culture du viol.
Est-ce que tu peux me dire ce que c'est Cœur Grenadine ?
Cœur Grenadine, c'est une vieille collection de livres, de romans d'amour, de romans à l'eau de rose qui ont bercé toute mon adolescence. Et je crois que j'ai lu toute la collection, il devait y en avoir une trentaine.
Sabrina Eringin, co-autrice de Nos amours radicales, 8 visions singulières pour porter un regard nouveau sur l'amour.
Et c'était toujours un peu la même histoire avec ce garçon impossible à avoir, très taciturne, très complexe, et puis cette fille qui voulait être absolument amoureuse de lui. Parce que, évidemment, c'était notre destinée d'être amoureuse des garçons compliqués. Et donc, moi, je buvais ça comme du petit lait. Et à la fois, c'est dommage parce que c'est à ce moment-là, je pense que j'ai appris ce que ça voulait dire aimer quand on est une femme. En tout cas, à l'époque, une jeune fille. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il fallait que ce soit compliqué, qu'il fallait que ce soit douloureux, qu'il fallait être rejeté. Et malgré le rejet, à tout prix cherchait à être aimé de celui qui était dur, voire violent des fois, hein, parce qu'il y avait, moi j'ai ce souvenir d'un Cœur Grenadine en particulier qui m'avait beaucoup touchée, où ce garçon était absolument exécrable, mais vraiment il était horrible. Il insultait, il gaslightait, il provoquait cette jeune fille. Et c'est terrible parce que ça devrait pas être comme ça. Mais c'est ce que j'ai appris, et c'est ce que j'ai essayé de faire pendant des années. Je crois même que je continue encore à le faire. Tellement ça m'a conditionnée.
Est-ce qu'on passe de Cœur Grenadine à la chiclite quand on grandit? Est-ce qu'on lit 50 nuances degrés ou on peut y échapper?
Alors j'ai lu 50 nuances degrés. Et j'ai adoré ça, évidemment. J'étais genre, mais oui, c'est la suite de Cœur Grenadine, bien évidemment.
Quelle image ça donne de l'amour? En quoi est-ce que ça contribue à nous construire?
Je pense que ça donne une image où l'homme est tout puissant et il a le droit de faire ce qu'il veut. Il a le droit d'être violent, il a le droit d'être méchant, il a le droit d'être un connard, en fait. Voire plus c'est un connard et plus il est charismatique, plus on l'aime. Et ça devient un challenge. Ça devient un challenge qui est très douloureux et pour nous, en tout cas, les femmes, les imaginaires qu'on a du couple, bah c'est ça, c'est Cœur Grenadine, c'est les téléfilms de Noël, c'est tout le temps des jeunes femmes, souvent elles sont beaucoup plus jeunes en plus, hein, qui vont céder. Ou alors, cet homme taciturne, non, trop peu pour moi, je ne donne pas dans l'amour, excusez-moi, c'est pour les filles, salut, et qu'il faudrait, hacker finalement le code de ces hommes pour arriver à leur cœur, et en fait, ils vont juste détruire le nôtre.
À quoi devez-vous votre succès?
Je m'applique à garder le contrôle dans tous les domaines, mademoiselle Steele.
Ça doit être un peu lassant.
Incapable de vous laisser tranquille.
Eh bien. Je suis Camille Emmanuel, je suis auteure et journaliste. Et j'ai publié il y a quelques années un pamphlet qui s'appelle « Lettre à celle qui lit les romances érotiques et qui devrait arrêter tout de suite ». Alors, il y a tout dans le titre. Hein. L'idée, c'est qu'en fait, en job alimentaire, pendant un peu plus d'un an, j'ai écrit à la chaîne de la romance érotique, la new romance, appelée aussi mommy porn, enfin il y a plein de noms, sous pseudo. Et à la fin, j'en ai fait un petit pamphlet pour expliquer les coulisses de cette production éditoriale, pour expliquer justement comment c'était fabriqué, parce qu'on parle d'une fabrication type usine, hein, en fait, hein, une fabrique à fantasmes.
Quand t'as écrit tous ces livres, c'était juste après le succès de 50 nuances degrés, hein, c'est ça, c'est le moment où tous les éditeurs cherchaient du mommy porn, enfin de la romance érotique.
Tout à fait. Ce qui s'est passé, en fait, 50 nuances a créé un genre qui était un mélange entre de la chick lit, la littérature pour poulettes, chicken literature, type Le Diable s'habille en Prada, avec ce contexte très urbain, très contemporain, de meufs qui mangent des cupcakes, qui se font des brunchs, qui vivent dans des grandes villes, et de la littérature érotique traditionnelle avec la jeune femme qui rencontre, en l'occurrence, le milliardaire.
Monsieur Gray va vous recevoir.
Il est comment?
Il est... poli. Très intense. Très brillant. Extrêmement intimidant. Quels sont vos centres d'intérêt en dehors du travail?
Et vous? J'aimerais en savoir plus sur vous.
Il n'y a vraiment pas grand-chose à savoir sur moi. Je veux dire, regardez-moi.
Je vous regarde.
Moi, quand je suis arrivée sur le marché, en tant qu'auteur, en tant que plume, voilà, de cette littérature, très vite, on m'a dit, la cible marketing, c'est 16-25. Et quand je lisais les commentaires sur mes romances, je voyais que c'était des filles de 17-18 ans qui commentaient, quoi. Alors, parfois aussi 25-30. Mais la cible, c'était vraiment 16-25. Donc, du coup, toutes les références... Il n'y a pas beaucoup de références culturelles dans ces bouquins, mais il y a quand même des références, voilà, pop, etc. Même les marques, par exemple, je devais mettre du Vuitton, je devais mettre du Chloé, je devais mettre des marques qui ciblent plutôt les jeunes filles de 16-25 ans. Au départ, je mettais un mois à le faire, et à la fin, je mettais 10 jours. Parce que c'était tellement structuré, tellement bordé. J'avais un tableau Excel quand même avec les positions sexuelles autorisées ou interdites. Je savais que, par exemple, la scène de sexe devait arriver à tel chapitre, à tel nombre de signes. Au bout de 3000 signes du chapitre 4, il devait y avoir la scène de sexe. Donc tout était tellement structuré qu'il y avait une écriture quasi automatique par rapport aux demandes de la maison d'édition. Et en fait, c'est assez marrant parce qu'on s'imagine littérature érotique, la liberté de l'auteur qui écrit voilà selon des fantasmes, pas du tout. Petite parenthèse d'ailleurs, il m'avait inventé un pseudo, bon ça pourquoi pas, à la limite ça m'arrangeait, mais il m'avait inventé aussi une biographie. Donc j'étais censée être une auteure américaine qui vivait à New York, qui était journaliste People, et mon père était une ancienne rockstar et ma mère était chanteuse lyrique, et j'avais 25 ans je crois. Et en fait j'habitais à Ménilmontant au-dessus d'un kebab, donc j'étais là genre bon d'accord, on va dire que j'ai une auteure glamour américaine.
J'ai eu une enfance difficile, vous devriez m'éviter. Je ne fais pas tant de romantisme. J'ai des goûts très particuliers. Vous ne pourriez pas comprendre.
Alors initiez-moi.
Et donc en fait, les règles de base, il y en a énormément, mais il faut que ça soit un milliardaire. Quel que soit son parcours, faut qu'il soit pété de thunes, vraiment. Des fois, je m'étais millionnaire et je me trompais, je me faisais taper sur les doigts. Milliardaire, faut vraiment que ça soit l'homme le plus riche du monde, quoi. Mais self-made man, attention, faut pas que ça soit un héritier, faut qu'il ait réussi par lui-même, qu'il ait à peu près 30 ans, il est extrêmement beau, mystérieux. Il a une faille intérieure qui fait qu'il peut pas tomber amoureux, mais quand même en rencontrant la jeune fille, il va tomber amoureux. Et ce qui est assez drôle, c'est que j'avais fait une étude statistique pour moi après, quand j'avais arrêté. En regardant qui étaient les milliardaires dans le monde, bon déjà il y en a quand même 110% qui sont d'origine asiatique. Et là mon personnage, hein, il est super blanc, il vivait à Los Angeles, qui ont plus de 60 ans. Et des milliardaires de 30 ans, extrêmement beaux, avec des tablettes de chocolat, qui sont bronzés toute l'année en plus. Je sais pas pourquoi ils ont le temps d'aller aux Bahamas et sur leur île privée. Bah ça n'existe pas. Donc il y a ce personnage-là et la jeune femme qui va rencontrer ce milliardaire, soit parce qu'elle est stagiaire, soit parce que elle est dans une position inférieure, hein, forcément, super inférieure même parce que elle est au début à la vingtaine. Il faut qu'elle soit pas forcément vierge, mais en tout cas vierge amoureusement ou si elle a eu des histoires, c'était pas terrible. Il fallait que la lectrice s'identifie à cette girl next door. Et donc, faut pas qu'elle soit complètement conne, sinon on l'aime pas. Mais faut pas non plus qu'elle soit brillante, parce qu'il faut que ça soit grâce à l'homme qu'elle évolue. C'est lui qui va lui faire découvrir la vie. Il faut qu'à un moment donné, elle soit mise en danger, la jeune femme. Donc, elle est souvent enlevée. Et qui est-ce qui la sauve? Le milliardaire. Et voilà, leur amour va être empêché par la fameuse faille intérieure de cet homme. Moi, je devais trouver comme ça des failles intérieures. Donc, j'avais des histoires de frères jumeaux disparus, de machins, de trucs. Au niveau narratif, on est sur des choses assez concons. Hein. Mais c'est pas ça qui compte, puisque ce qui compte, ça, c'est la romance. C'est les scènes de sexe. Et là aussi, j'avais des guidelines. Il fallait que ça soit dans un contexte luxueux, dans des hôtels de luxe, dans des avions de luxe, dans tout devait sentir le luxe. Et que même la scène de sexe, même en elle-même, soit glamour. Et du coup, ça veut dire pas de fluide, pas de sperme, pas de cyprine, pas de sueur, pas de poils non plus. Et c'est l'homme qui donne du plaisir. La jeune fille n'en prend pas toute seule. J'avais écrit une scène de masturbation tout début de ma collaboration. Et l'éditrice me dit « Mais non, voyons, je sais pas quoi. » Je fais « Mais non, c'est le milliardaire qui doit la faire jouer, elle peut pas jouer toute seule. » Ok, d'accord. Donc, on était en 2017 et une jeune femme de 20 ans ne se masturbait pas, évidemment. Ouais, c'était lui et sa verge turgescente. Voilà, donc il bande tout le temps. Il n'a pas de problème d'érection. Elle n'a jamais ses règles, évidemment. Elle trouve ça toujours super et elle jouit au bout de 4 minutes de pénétration, quoi. Donc, on est vraiment sur un format très réaliste de la sexualité féminine.
La question que je me pose aussi, c'est jusqu'à quel point ce qu'on appelle amour, c'est pas aussi un échange économico-affectif.
Ah mais bien évidemment, bien évidemment. Si t'as un capital beauté suffisant, tu peux finalement être transfuge de classe, quoi. Quand t'es une femme, c'est plutôt aisé. Il suffit après d'acquérir 2-3 codes et c'est bon, ça marche, quoi.
Nadine de Rothschild.
Voilà. C'est assez simple, quoi. En revanche, nous, ce qu'on va chercher chez un homme, c'est aussi la sécurité. Parce que si on n'a pas ce capital... parce que, attention, ce capital beauté, il faudrait qu'il soit quand même très conséquent. Hein. Ils sont très exigeants, les hommes. Alors qu'ils ressemblent à rien, mais ça, c'est un autre sujet. Mais nous, ce qu'on va chercher, c'est la sécurité plus que le capital beauté. On s'en fiche un peu. D'ailleurs, on est les premières à se dire « Oh, il me plaît pas vraiment tant que ça, mais il est gentil. »
C'est un bon parti.
C'est un bon parti. Il est bon à marier. C'est le gendre idéal. Et souvent, ça passe par, effectivement, la position sociale. Et moi, j'ai réalisé ça, que je faisais ça, il y a très peu de temps. Moi, je viens de classe ouvrière. J'ai grandi dans une extrême pauvreté. J'ai été très précaire toute ma vie, jusqu'à ce que je reprenne mes études et que je puisse avoir un travail meilleur. Et dernièrement, je me suis intéressée au type d'homme qui me plaisait. Et je leur ai demandé leur classe sociale. Alors c'est très drôle, j'ai une petite histoire à ce sujet, mais il y a quelques jours, il y a un mec qui m'aborde dans un café. Je n'étais pas du tout OP pour ça, mais je lui demande quand même sa classe sociale. Puis il me dit « Oui, je suis CSP plus moins ». J'étais genre « Ça n'existe pas, CSP plus moins, que je le sache ». Je lui dis « Non, en fait, que font tes parents ?» C'est ça que je veux savoir. Je dis « Oui, bah, mon père, il a fait HEC, ma mère, elle a une boîte de production de documentaires. Ok, donc tu es de classe bourgeoise. » C'est ça la réponse que je voulais. Et en fait, je me suis rendu compte que les hommes qui me plaisaient, ils étaient tous issus de la classe bourgeoise. Et je me suis dit « Merde !» Mais le pire, c'est que moi, mon plus gros complexe dans la vie, c'est pas mon nez, hein, ça c'est le deuxième, c'est ma classe sociale. Et en même temps, je suis là à chercher la validation de leur classe sociale, mais aussi parce que je me dis « Putain, ce serait chouette un mec qui aurait de la thune, quoi !» Pas se mentir, moi j'en ai jamais eu.
Il y a deux endroits au monde où l'on ne parle que d'amour dans la littérature et les arts. C'est les pièces de Racine et les soap-opéras. Alors, je connais rien en soap-opéra, mais mon grand-père passait son temps à regarder ça. Et j'ai le souvenir de cette espèce de musique en fond où ça arrête pas de parler de qui se marie, qui trompe qui machin. Toi, t'as regardé du soap-opéra ou pas?
Non, j'ai regardé du sitcom. Ah,
oui, Hélène et les garçons.
Si, j'ai regardé du soap-opéra, puisque quand j'étais enfant, il y avait Dallas. Et après, il y a eu Santa Barbara et j'ai regardé Côte Ouest. Et ton grand-père regardait quoi? Les Feux de l'Amour
ou... Les Feux de l'Amour. Les Feux de l'Amour, il regardait, c'était un ancien diplomate, ancien député. Et quand il est arrivé à un certain âge, il s'est mis à regarder les Feux de l'Amour. Et alors, on ne pouvait rien faire. Au moment où les Feux de l'Amour commençaient, tout le monde devait se taire. Et il fallait regarder les Feux de l'Amour, quoi. Ou aller ailleurs.
Quand je t'ai demandé ta main tout à l'heure, je m'y suis mal pris.
Victor, tu n'es pas obligé.
Non, tu as raison. Je suis un homme très chanceux. Je suis parti de rien et j'ai bâti un empire. J'ai une fortune, de très beaux enfants, des petits-enfants. Mais sans toi, tout cela ne vaut rien. Veux-tu m'épouser?
Qu'est-ce que c'est un soap et pourquoi ça s'appelle soap?
Un soap, c'est un feuilleton, originellement diffusé l'après-midi, qui s'adressait aux femmes au foyer et qui ont été conçus en fait comme des véhicules publicitaires.
Delphine Chedaleux, historienne des médias, autrice de Du savon et des larmes, le soap opéra, une subculture féminine.
Ils étaient financés au départ par des industriels, propriétaires de marques, de lessives, de savons, de produits d'hygiène, etc. Et ça, c'est l'origine du format. Et c'est pour cela qu'on appelle ça soap opéra. On a l'habitude de dire que ce sont des feuilletons sans fin parce qu'en fait, ce sont des histoires interminables. Le plus long soap de l'histoire du soap a été diffusé 72 ans, d'abord à la radio, puis à la télévision. Donc, ce sont des histoires interminables qui explorent de façon infinis, on pourrait dire, les rapports interpersonnels, familiaux, sentimentaux. Les personnages passent leur temps à discuter, à régler leurs problèmes, en fait, en discutant. Alors, en fait, ils les règlent jamais vraiment parce que un problème en entraîne un autre, un conflit en entraîne un autre, etc. Et c'est l'intérêt aussi du soap, hein, c'est de ne jamais rien résoudre et donc d'être toujours dans l'attente du prochain conflit. Tous les personnages passent leur temps à parler entre eux, y compris donc les hommes. Et ils parlent de quoi? Eh bien, ils parlent d'amour, de sentiments, d'eux et des autres, sous le prisme de l'intimité. Et ça, c'est un format un peu utopique, parce qu'ils réalisent le fantasme des femmes, en fait, qui est de pouvoir dialoguer avec leur partenaire masculin. Ce qui n'est pas, effectivement, tout à fait ce qui se passe dans la vraie vie, hein, la plupart du temps, en tout cas en régime hétérosexuel.
Est-ce que le soap est vecteur de normes? Je pense entre autres aux normes amoureuses, mais aux normes familiales également.
La famille y est centrale, le couple hétérosexuel, la famille basée sur un modèle hétéro-patriarcal, si on peut le dire comme ça, est centrale. De même, le mariage y est vu comme une norme indépassable, comme l'aboutissement individuel. En même temps, tous les mariages sont voués à l'échec. La définition de l'amour, s'il devait y en avoir une qui ressort du soap, c'est l'ambivalence et l'instabilité, puisque l'amour y est à la fois décrit comme la quête ultime. Tout le monde passe son temps à chercher l'amour, en fait. Et il y est à la fois décrit comme un objectif inatteignable, hein, puisque lorsqu'on trouve l'amour, cet amour, finalement, il est voué à l'échec, au conflit. La norme dans les soaps, c'est pas le bonheur conjugal et familial, c'est plutôt le malheur, la destruction, le conflit, la trahison entre membres d'une même famille, etc. Et ce paradoxe, on peut penser qu'il est à l'origine de l'attrait qu'il exerce sur les spectatrices, hein, parce que, eh bien, à la fois, ils parlent de leur quotidien, hein, ils parlent d'elles, de ce qu'elles vivent, de l'environnement, du contexte dans lequel elles vivent, et en même temps, il permet aux spectatrices de se consoler, d'une certaine façon, de leur propre incapacité à réaliser cette norme absolue, ce fantasme de l'harmonie conjugale et de l'harmonie familiale.
Tu t'es trompée, ça ne va pas?
Mais elle a bu!
Elle peut remercier le ciel, crois-moi. Annie doit s'en aller et elle partira dans la matinée.
Ne me donne pas d'ordre!
Notre fille de 15 ans va se baigner la nuit dans l'océan Pacifique, le ventre plein de whisky. Miracle, elle s'en sort. Je ne veux pas compter sur la chance la prochaine fois.
Je trouve qu'Annie, c'est de la dynamite!
Tu as entendu, n'est-ce pas? Si tu n'as pas assez d'autorité pour protéger nos enfants, alors je vais le faire. Alors où elle part dans la matinée, ou bien c'est moi. Et avec les enfants.
Est-ce qu'on peut regarder du soap quand on est féministe?
Oui, bien sûr. Il y a plein de raisons de regarder du soap quand on est féministe. Par exemple, c'est l'un des formats audiovisuels dans lequel on trouve la plus grande, sans doute la plus grande diversité de personnages féminins. Il est très rare, par exemple, d'avoir un format audiovisuel avec autant de femmes qui transgressent les normes de genre. Les méchantes, c'est vraiment un archétype du soap. Et ce sont des femmes qui, certes, sont méchantes, mais qui reçoivent autant d'attention que les autres personnages et qui sont hyper transgressives à l'égard des normes de genre, puisque tout ce qui les intéresse, c'est leur pouvoir. Pouvoir, par ailleurs, qu'elles incarnent souvent physiquement. Alors, on peut penser à Joan Collins dans Dynasty, qui incarne Alexis Carrington et qui est en fait une femme virile, qui en tout cas physiquement incarne la virilité et le pouvoir, la puissance. De la même manière, on trouve dans les soaps beaucoup de personnages de femmes âgées qui ont une sexualité. Là, je pense par exemple à Plus belle la vie, On a des personnages de femmes âgées qui ont une sexualité. Hein. Princesse Cruella, c'est une femme âgée, une grand-mère, qui travaille pour un service de téléphone rose et incarne une dominatrice qui s'appelle donc Princesse Cruella. Donc, autrement dit, c'est une travailleuse du sexe.
Peut-être aussi parce que les spectatrices sont aussi vieillissantes, quelque part. Puisque qui est à la maison à cette heure-ci, ben voilà, ce sont les femmes au foyer ou les femmes qui sont à la retraite.
Vous ne savez pas ce que c'est qu'une dominatrice?
Bah, j'en ai croisé sur des sites du net, mais c'est la première fois que j'en vois une en vrai.
Il faut que je vous intimide. Tu sais que c'est interdit de regarder Princesse Cruella avec concupiscence. Tu vas être puni. Je vais t'enfermer tout nu. Cabinet noir.
Si on t'avait laissé la possibilité de changer ce cahier des charges, si par exemple ton éditrice avait dit « Allez, on fait un essai, pour une fois on va prendre un homme et une femme à égalité, je sais pas, deux profs par exemple, qui vivent dans un 40 mètres carrés et voilà », est-ce que les lectrices y auraient trouvé leur compte? Est-ce que finalement c'est érotique de s'aimer dans l'égalité? Est-ce que ça peut être érotique quand même?
Moi je pense que oui. Je pense que ça peut vraiment être érotique. C'est plus facile de créer un truc érotique avec un homme mystérieux, dominant, qui va foutre des fessées et tout, parce qu'on est sur l'interdit, sur aussi des systèmes de violence, de refus, etc. Mais je pense qu'il est tout à fait possible d'écrire des choses érotiques, voire pornographiques, sans qu'il y ait un milliardaire qui rentre dans l'histoire, quoi. La vraie question, c'est par contre, et j'apporte un bémol à ce que je viens de dire, c'est que pour qu'il y ait à un moment donné il y ait l'érotisme, il faut qu'il y ait une tension et une forme d'interdit, une tension dramatique, sinon ça ne marche pas. J'ai fait l'exercice pour les éditions Carrière qui va sortir un recueil de nouvelles pornographiques où je voulais justement écrire une histoire. Je me dis, je vais écrire une histoire de cul, mais avec un couple qui est marié et qui est ensemble depuis 15 ans. Et qu'il y a des enfants et que tout ça. Bon, bah, j'ai pas réussi. C'était chiant.
J'ai cherché l'amour dans les yeux des uns des autres, mais aucun n'a fait son lit dans mon nid de chercheuse d'or, des histoires des entre-deux. J'en ai eu des tas, mais là où je suis maintenant, je ne m'y attendais pas. Je m'y attendais pas.
C'était Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Un jour, mon prince viendra. Avec Camille Emmanuel, Delphine Chaudaleux et Sabrina Eringin. Avec la voix d'Alexandre Zurel. Remerciements à ABC Théâtre. Documentation Radio France, Antoine Vuillos. Prise de son, Thibaut Nassim Ben, Mathieu Tourin, Guillaume Ledu et Claire Levasseur. Mixage, Manuel Couturier. Attaché de production, Marivonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervan. Une série documentaire d'Ovidie avec la participation de Tancrède Ramonet, réalisée par Julie Béressi.
L'heure de vérité, je n'y étais toujours pas. J'ai marché le long.